De la conscience. Chapitre 5. Voyageant un jour, mon frère Sieur de la Brousse et moi, durant nos guerres civiles, nous rencontrâmes un gentilhomme de bonne façon. Il était du parti contraire au nôtre, mais je n'en savais rien, car il se contrefaisait autre. Et le pis de ces guerres, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous d'aucune marque apparente, ni de langage, ni de port, nourri en même loi, mœurs et même air, qu'il est malaisé d'y éviter confusion et désordre. Cela me faisait craindre à moi-même de rencontrer nos troupes, en lieu où je ne fusse connu, pour n'être en peine de dire mon nom, et de pis à l'aventure, comme il m'était autrefois advenu. Car en un tel mécompte, je perdis et hommes et chevaux, et mituallons misérablement, entre autres, un page gentilhomme italien que j'élevais soigneusement, et fut éteinte en lui une très belle enfance et pleine de grande espérance. Mais celui-ci en avait une frayeur si éperdue, et je le voyais si mort à chaque rencontre d'hommes à cheval et passage de ville qui tenait pour le roi, que je devinais enfin que c'était à l'arme que sa conscience lui donnait. Il semblait à ce pauvre homme qu'au travers de son masque et des croix de sa casaque, on irait lire jusque dans son cœur ses secrètes intentions. Tant est merveilleux l'effort de la conscience, elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes, et faute de témoins étrangers, elle nous produit contre nous, agitant son fouet invisible avec une âme de bourreau. Ce conte est en la bouche des enfants. Bessos Péonien, reproché d'avoir de gaieté de cœur abattu un nid de moineaux et les avoir tués, disait avoir eu raison parce que ses oisillons ne cessaient de l'accuser faussement du meurtre de son père. Ce parricide, jusque-lors, avait été occulte et inconnu. Mais les furies vengeresses de la conscience le firent mettre hors à celui-même qui en devait porter la pénitence. Hésiode corrige le dire de Platon que la peine suit de bien près le péché, car il dit qu'elle naît en l'instant et en même temps que le péché. Quiconque attend la peine, il la souffre, et quiconque l'a méritée, l'attend. La méchanceté fabrique des tourments contre soi. Un mauvais dessein est encore pire pour son auteur. Comme la mouche guêpe pique et offense autrui, mais plus soi-même, car elle y perd son aiguillon et sa force pour jamais. Et elle laisse leur vie dans la blessure. Les cantharides ont en elles quelques parties qui serrent contre leur poison de contrepoison par une contrariété de nature. Aussi, à même qu'on prend le plaisir au vice, il s'engendre un déplaisir contraire en la conscience, qui nous tourmente de plusieurs imaginations pénibles, veillant et dormant, car beaucoup, parlant souvent dans leur sommeil ou délirant sous l'effet de la maladie, se sont, dit-on, dénoncés eux-mêmes et ont révélé des fautes longtemps cachées. Apollodore songeait qu'il se voyait écorché par les scythes et puis bouillir dedans une marmite, et que son cœur murmurait en disant « Je te suis cause de tous ces maux ». Aucune cachette ne sert aux méchants, disait Épicure, parce qu'ils ne se peuvent assurer d'être cachés, la conscience les découvrant à eux-mêmes. C'est le premier châtiment qu'aucun coupable ne soit absous devant son propre tribunal. Comme elle nous remplit de crainte, aussi fait-elle d'assurance et de confiance. Et je puis dire avoir marché en plusieurs hasards d'un pas bien plus ferme, en considération de la secrète science que j'avais de ma volonté et innocence de mes desseins. Chacun, selon sa conscience, conçoit en son cœur pour ses actes, espoirs et craintes. Il y en a mille exemples. Il suffira d'en alléguer trois de même personnage. Scipion, étant un jour accusé devant le peuple romain d'une accusation importante, au lieu de s'excuser ou de flatter ses juges, « Il vous sera bien, leur dit-il, de vouloir entreprendre de juger de la tête de celui par le moyen duquel vous avez l'autorité de juger de tout le monde. » Et une autre fois, pour toute réponse aux imputations que lui mettait dessus un tribun du peuple, au lieu de plaider sa cause, « Allons, dit-il, mes citoyens, allons rendre grâce aux dieux de la victoire qu'ils me donnèrent contre les Carthaginois en pareil jour que celui-ci. » Et se mettant à marcher devant vers le temple, voilà toute l'assemblée, et son accusateur même, à sa suite. Et Pétilius, ayant été suscité par Caton pour lui demander compte de l'argent manié en la province d'Antioche, Scipion étant venu au Sénat pour cet effet, produisit le livre des comptes qu'il avait dessous sa robe et dit que ce livre en contenait au vrai la recette et la mise, mais comme on le lui demanda pour le mettre au greffe, il le refusa, disant ne se vouloir pas faire cette honte à soi-même et de ses mains, en la présence du Sénat, le déchira et mit en pièces. Je ne crois pas qu'une âme cautérisée sût contrefaire une telle assurance. Il avait le cœur trop gros de nature et accoutumé à trop haute fortune, dit Tite-Live, pour savoir être criminel et se démettre à la bassesse de défendre son innocence. C'est une dangereuse invention que celle des GN, et semble que ce soit plutôt un essai de patience que de vérité. Et celui qui les peut souffrir cache la vérité, et celui qui ne les peut souffrir. Car pourquoi la douleur me fera-t-elle plutôt confesser ce qui en est qu'elle ne me forcera de dire ce qui n'est pas? Et au rebours, si celui qui n'a pas fait ce de quoi on l'accuse est assez patient pour supporter ses tourments, pourquoi ne le sera celui qui l'a fait un si beau don que de la vie lui étant proposé? Je pense que le fondement de cette invention vient de la considération de l'effort de la conscience. Car au coupable, il semble qu'elle aide à la torture pour lui faire confesser sa faute et qu'elle l'affaiblisse. Et de l'autre part, qu'elle fortifie l'innocent contre la torture. Pour dire vrai, c'est un moyen plein d'incertitudes et de dangers. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour fuir à si grièves douleurs? La douleur force à mentir, même les innocents. D'où il advient que celui que le juge a gêné pour ne le faire mourir innocent, il le fasse mourir et innocent et gêné. Mille et mille en ont chargé leur tête de fausses confessions, entre lesquelles je loge Philotas, considérant les circonstances du procès qu'Alexandre lui fit et le progrès de sa gêne. Mais Tantillac, que c'est, dit-on, le moins mal que l'humaine faiblesse ait pu inventer. Bien inhumainement pourtant, et bien inutilement, à mon avis. Plusieurs nations moins barbares en cela que la grecque et la romaine, qui les appellent ainsi, estiment horrible et cruel de tourmenter et dérompre un homme de la faute duquel vous êtes encore en doute. Que peut-il contre votre ignorance? Êtes-vous pas injuste, vous qui, pour ne le tuer sans occasion, lui faites pis que le tuer? Qu'il soit ainsi. Voyez combien de fois il aime mieux mourir sans raison que de passer par cette information plus pénible que le supplice, et qui souvent, par son âpreté, devance le supplice et l'exécute. Je ne sais d'où je tiens ce compte, mais il rapporte exactement la conscience de notre justice. Une femme de village accusait devant le général d'armée grand justicier un soldat pour avoir arraché à ses petits-enfants ce peu de bouillie qui lui restait à les sustenter, cette armée ayant tout ravagé. De preuve, il n'y en avait point. Le général, après avoir sommé la femme de regarder bien à ce qu'elle disait, d'autant qu'elle serait coupable de son accusation si elle mentait, et elle, persistant, il fit ouvrir le ventre au soldat pour s'éclaircir de la vérité du fait. Et la femme se trouva avoir raison. Condamnation instructive.